Et dans cette pensée, j'aimerais vous laisser ce matin donc un partage avec un premier texte dans Josué 22. On va lire juste un verset qu'on va expliquer. Parce que si effectivement on lit que ce verset, on va se dire, oulala, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je ne comprends pas? Parce que ce verset peut sembler tellement mystérieux, mais on va voir ce matin ensemble de quoi il parle, et puis de quoi il s'agit, et surtout en quoi cela nous concerne-t-il. Avec une première pensée, les Rubénites, vous connaissez les Rubénites? C'est ceux qui appartenaient à la tribu de Ruben. Merci Ruben. Voilà, on a un Rubénite parmi nous, deux Rubénites parmi nous ce matin. Voilà. Les Gadites de Gad appelèrent l'autel Ed, E-D, Ed. Car dirent-ils, il est témoin entre nous que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et j'ai trouvé intéressant cette déclaration, on va y revenir. Mais déjà pour nous, cette réalité, cette pensée, hein, Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et ce matin, bien, nous sommes témoins que c'est l'Éternel qui est Dieu. Sommes témoins que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors si on s'arrête à cette lecture, ça peut nous sembler bien sûr bien mystérieux. De quoi est-ce qu'on parle? Qui sont ces Rubénites, ces Gadites, etc., etc. De quel autel s'agit-il? Parce qu'il est question d'un autel. D'abord, c'est quoi un autel? Alors c'était souvent un monticule de pierre. Il pouvait avoir aussi du bronze, etc., sur lequel on offrait des sacrifices. C'est ça l'autel, la définition. Et puis là, on a le nom de l'époque. C'est Ed, E-D. Voilà. Et cet autel, ED, eh bien, ça veut dire, il est témoin entre nous que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, on va découvrir un petit peu, justement, autour de cet autel, eh bien, ce que Dieu veut nous dire ce matin pour nous en tant que témoins, par des questions très, très faciles. Par qui a été construit cet autel? Où a-t-il été construit? Quand a-t-il été construit? Et puis surtout, ce qui nous intéresse, pourquoi a-t-il été construit? Et à travers ces quatre questions, eh bien on va voir quelques éléments de réponse concernant notre vie, nous, de témoins de Jésus-Christ. Alors, qui a construit cet autel? Gardez vos bibles, papier, dans Josué 22, on va faire quelques lectures. Josué 22, 10 nous dit ceci d'abord. Josué 22, 10. Arrivé dans les districts du Jourdain qui appartiennent encore au pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé y construisirent un autel au bord du Jourdain. C'était un autel dont la grandeur frappait les regards. On peut imaginer que c'était des pierres assemblées, des grosses pierres assemblées les unes sur les autres, et puis qui devaient monter quand même assez haut pour frapper le regard. Et puis Josué 22, 1, 3, pour préciser, Josué appela les Rubénites, les Gadites, la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, vous avez respecté tout ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel. Vous m'avez obéi dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez pas abandonné vos frères, et ce, sur une très longue période, jusqu'à aujourd'hui. Vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Qui a construit cet autel de pierre? Eh bien, ce sont les tribus de Ruben, de Gad, et puis une moitié de la tribu de Manassé. Il y avait 12 tribus en Israël, il y a toujours d'ailleurs 12 tribus en Israël, et c'est eux, bien sûr, qui ont érigé cet autel lorsqu'ils sont revenus s'installer, bien sûr, dans leur territoire à l'est du Jourdain. Je ne sais pas s'ils avaient une carte d'Israël dans la tête, mais aujourd'hui, c'est la Jordanie, voilà, du côté est, on va dire à droite du Jourdain. Il y a la mer Méditerranée, il y a Israël un petit peu comme une épine, là, puis il y a le Jourdain, et du côté est, du côté Jordanie, eh bien, c'est là que ces tribus vont s'installer. En effet, c'est suite à leur demande, à leur propre demande, on ne va pas relire le texte, mais que Moïse va leur accorder ce territoire, ce grand territoire. Et dans Josué 22, on vient de lire ces textes, eh bien, il nous est révélé d'abord deux grandes vérités concernant leur vie de témoin, mais aussi la nôtre. Le premier, c'est que le témoin, il respecte, il honore, il obéit à la parole de Dieu. C'est ce qui est dit dans ce texte. Hein, vous avez obéi, vous avez oui, obéi à tout ce que je vous ai ordonné, vous avez respecté, j'aime bien, vous avez gardé les ordres de l'Éternel. Et le témoin, les témoins que nous sommes ce matin, là, notre base de témoignage, eh bien, c'est parce que nous aimons, nous serrons la parole de Dieu sur notre cœur. Elle n'est pas un livre poussiéreux, désuet, mais nous obéissons, nous voulons obéir en tout cas à l'Écriture. 1 Timothée 4,13, c'est un conseil, une exhortation que Paul donne à Timothée, un autre serviteur de Dieu. Et il dit ceci, eh bien, en attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner, à lire l'Écriture. Je ne sais pas quels sont vos livres de chevet, vous avez le droit d'en avoir, hein. À ce qui paraît, il y a un Astérix là qui vient de sortir, là, un des derniers. Je me souviens d'un des premiers que j'ai lu, c'est Astérix le Gaulois. Vous vous souvenez, hein, un petit peu, non? Vous avez lu ça, etc. Et on a tous peut-être des livres de chevet, hein, des romans policiers, des science-fiction ou autre. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en tant que témoin, le livre des livres qui doit nous animer, qui doit nous inspirer, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est la Bible. Et je vous encourage, je vous exhorte quotidiennement à lire la parole de Dieu, hein, que ce soit sur papier, que ce soit sur tablette, que ce soit d'un autre moyen, peu importe. Lisons la parole de Dieu, méditons-la. Hein, j'ai écrit afin que nous puissions là aussi bien respecter, honorer, obéir à la parole de Dieu. Parce que le témoin, par définition, il respecte la parole de Dieu. Vous connaissez 2 Timothée 3,15, verset 17, qui apparaît. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et puis la suite, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Lire la parole de Dieu, la méditer, l'écouter, l'entendre, y revenir, ce n'est jamais du temps perdu. C'est un investissement déjà dans l'éternité. Et ce matin, bien, il nous est rappelé d'abord que le témoin, c'est celui qui respecte, qui honore, qui obéit, qui vit et qui partage la parole du Seigneur. Et puis, la deuxième pensée, c'est que le témoin, il est solidaire de ses frères et sœurs. J'ai bien aimé l'expression dans Josué 22, il est dit « Vous n'avez pas abandonné vos frères », et cela sur une très longue période jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas abandonné vos frères. Ces tribus s'étaient engagées à combattre à leur côté, on y verra tout à l'heure, mais même dans le combat, même quand ça a été difficile, même peut-être quand il a fallu faire un repli stratégique, ils n'ont pas abandonné. Ils sont restés solidaires. Ils ont encouragé, même si eux-mêmes étaient peut-être fatigués, ils sont restés solidaires de leurs frères dans le combat. On sait que Paul a été marqué dans son ministère, dans sa vie, par plusieurs abandons. Il y a Phygèle et Hermogène, et puis il y a surtout ce fameux Démas, hein, Paul en parle deux fois, etc. Et on réalise que ces abandons bien, l'ont attristé, l'ont marqué. Être abandonné, c'est d'être trahi quelque part. Et peut-être que ce matin, certains ont été comme abandonnés, comme trahis, et c'est une plaie qui parfois a du mal à se cicatriser, parce que l'abandon est douloureux. Hébreux 10:25 dit ceci, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont pris l'habitude. » Il semblerait qu'à cette époque, dans un certain contexte, bien certains prenaient l'habitude d'abandonner l'assemblée. Ils allaient voir ailleurs, ils abandonnaient, etc. Et Jésus parle lui-même de ce qu'il a vécu à Gethsémané. On sait ce qu'il a vécu. Hein, la Bible nous dit dans Marc 14:50, « Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Et prirent la fuite. Il y a dans le livre des Actes un mot hein, qui peut résumer, si on voit sous cet angle, l'œuvre du Saint-Esprit dans le livre des Actes, c'est le mot « ensemble ». On parle beaucoup ensemble, du vivre ensemble. Ce n'est pas toujours évident de vivre ensemble, hein, avec des cultures différentes, avec des origines différentes, avec des quotients intellectuels différents, ce n'est pas toujours évident. Et pourtant, le lien du livre des Actes du Saint-Esprit, c'est le mot « ensemble ». Allez, je vous les cite comme ça à la rafale, hein. Acte 2:42, ils persévéraient hein, dans la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, l'enseignement des apôtres. Acte 2:1, ensemble, ils allaient dans le même lieu, Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Acte 3, 1. Pierre et Jean montaient ensemble. J'aime bien. Ils sont que deux, mais ils sont ensemble. Parce que parfois, on peut être deux dans un couple, et puis on n'est pas ensemble. Mais ils sont deux, ils sont ensemble. Acte 3, 1. Acte 4, 24. Ils élevèrent à la voix tous ensemble. Acte 5, 12. Beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble. Encore deux. Acte 14, 1. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue. En acte 15, 25, après avoir été réunis ensemble, nous avons choisi des délégués. En maths, vous avez des souvenirs de maths, hein? Un ensemble, c'est quoi? Attention, hein? On a eu des ensembles, etc. Alors, c'est le rassemblement d'objets qui sont distincts, d'accord? Hein? Une multitude qui peut être comprise après comme une totalité. Alors, un exemple, hein? L'ensemble des lettres de l'alphabet. Chaque lettre est différente et pourtant font partie de l'ensemble des, hein, et puis alors l'ensemble des équipes de foot, des animaux à quatre pattes, à trois pattes, non, à deux pattes, etc. Enfin voilà. Hein, et ce matin, eh bien, ensemble, nous sommes tellement différents, mais nous sommes ensemble. Et le témoin, c'est celui qui n'abandonne pas, qui ne lâche pas son frère, sa sœur, mais qui reste uni à lui, même si lui est fatigué, même si lui peut-être a quelques difficultés, eh bien, on ne lâche pas. Et ainsi, eh bien, ce matin, nous sommes appelés à être ces hommes et ces femmes qui n'abandonnent pas leurs frères et sœurs lorsqu'ils sont dans la difficulté. Où est construit cet autel? Un témoin que c'est l'Éternel qui est Dieu. Eh bien, Josué 22, 11 nous dit ceci, « Les Israélites apprirent que l'on disait « Les Rubénites, les Gadites, la demi-tribu de Manassé ont construit un autel qui fait face au pays de Canaan dans les districts du Jourdain du côté des Israélites. » Bon, c'est un petit détail, mais si on comprend bien le texte, eh bien, vous avez donc Israël, il y a le Jourdain qui est là, voilà, le Jourdain qui est là, et donc c'est du côté des Israélites que cet autel va être érigé. Pas du côté de la tribu de Rubel, etc., mais c'est de l'autre côté du Jourdain que cet hôtel va être érigé. Ça veut dire quoi? Ben, tout simplement que pour construire cet hôtel, il va falloir qu'ils traversent le Jourdain. Ils reviennent chercher des pierres, ils traversent et ils fassent des allers-retours pour traverser, bien sûr, le Jourdain. Cet hôtel, ainsi, eh bien, va être construit, mais il va falloir traverser le Jourdain. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de concret? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Jourdain, ça veut dire le descendant, celui qui descend. Une de ses sources culmine à plus de 520 mètres, d'accord? Et ensuite, le Jourdain s'étire hein, sur 220 kilomètres, et il se jette, très bien, magnifique, et il se jette donc dans la mer Morte à moins 392 mètres. Voilà, si vous êtes fort en maths, hein, faites le dénivelé de 500 mètres à moins 392 sur 220 kilomètres, et puis vous me faites un coefficient, une pente, etc. Et dimanche prochain, on interroge tout le monde. Bon. Mais ça descend, il y a des rapides, hein, et ça descend. Et on se souvient, on l'a chanté tout à l'heure, que Jésus est descendu dans les eaux du Jourdain pour se faire baptiser par un homme qui s'appelle Jean-Baptiste et qui refuse. Il ne veut pas, il dit « je ne suis pas digne de te délier les sandales, la courroie des sandales ». Il refuse, il s'oppose. Et Jésus dira « laisse faire ce qui est convenable ». Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est ce que Jean-Baptiste dira un peu plus tard. Le témoin est celui qui sait rester humble pour servir son Seigneur. Romains 12, 16 « Vivez en plein accord les uns vers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Laissez-vous attirer par ce qui est humble. C'est l'exemple de Jésus. Il descend du ciel, on l'a chanté, il a tout laissé, il a tout abandonné, la gloire de son Père, et puis il est venu hein, dans une humble mangeoire, il s'est fait homme parmi les hommes, etc., etc. On connaît là aussi ces textes. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et construire, élever des autels de reconnaissance ce matin dans nos vies, des autels de foi, des autels pour dire « je suis témoin de ce que l'Éternel est Dieu », eh bien, se fait en traversant les Jourdains, en restant dans cette humilité, Hein, vous connaissez tous, on l'a peut-être... Je suis humble parmi les humbles. Vous connaissez cette déclaration que parfois on peut faire pour bien montrer que, hein, voilà, on est humble, etc. Mais apprenons encore, je vous laisse l'expression, soit descendre de nos piédestals ou de nos grands chevaux. C'est comme vous voulez, hein, c'est la même expression, hein, grands chevaux ou piédestals, etc. Le témoin est celui qui descend, qui apprend là aussi bien à servir dans cette humilité, parce que bien on l'a chanté ce matin, on l'a entendu là aussi dans les prophéties, dans les chants, le nom de Jésus est plus grand, c'est lui qui a toute autorité, c'est lui qui gagne les combats. Amen. Et on veut rester dans cette humilité. Le témoin est celui qui reste humble. Quand est-ce que cet autel a-t-il été construit ? Josué 22, versets 7 à 10. On va pas lire tous les textes de Nombre, etc., mais je vais vous rappeler Josué 22, 7 à 10, nous dit ceci. Josué 22, 7 à 10. Moïse avait donné un héritage en Basan à une moitié de la tribu de Manassé, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès des frères de ce côté du Jourdain, à l'ouest. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit. Il leur dit, vous retournerez à vos tentes avec des grandes richesses, avec un troupeau très nombreux, une grande quantité considérable d'or, d'argent, de bronze, de fer, de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Après avoir quitté les Israélites à Silo, dans le pays des Cananéens, donc ils reviennent chez eux, les Rubénites, les Gadites, la demi-tribu de Manassé, repartirent pour aller dans le pays de Galaad. C'était leur propriété. Ils s'étaient installés conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Alors ces textes, on pourrait lire quand même Nombre 32. Allez, vous avez 2 minutes de plus. Si le poulet est un petit peu plus bronzé, ben vous direz que c'est de ma faute. Hein. Si vous l'avez programmé dans le four. Nombre 32, parce que c'est important. Nombre 32, versets 16 et 19, nous dit ceci. Ils s'approchèrent de Moïse, donc ses tribus, et ils dirent, nous construirons ici des enclos pour nos troupeaux, des villes pour nos petits-enfants. Puis nous-mêmes, nous nous empresserons de prendre les armes pour marcher en tête des Israélites jusqu'à ce que nous les ayons fait entrer chez eux. Quant à nos petits-enfants, ils resteront dans les villes fortifiées à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons pas chez nous avant que chacun des Israélites ait pris possession de son héritage. Nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci, du Jourdain, donc, à l'est. Ces textes nous rappellent la chronologie des événements, et puis surtout, les deux phases qui y sont décrites. Première phase, ils vont mettre en sécurité leur famille, leurs troupeaux, leurs biens. Et deuxième phase, ils vont les combattre dans l'armée des 12 tribus. Ils vont les combattre aux côtés, donc, d'Israël. Première pensée pour nous encore ce matin, le témoin, c'est un bon père de famille. Qui prend soin des siens, qui prend soin de sa famille. Et sa priorité, bien sûr, ici, pour ces tribus, c'était de protéger, de mettre à l'abri les plus fragiles, les plus faibles, ceux qui avaient besoin d'être secourus, ceux qui étaient sans défense. Et avant d'aller combattre, eh bien, ils vont protéger, ils vont édifier des murailles, des villes, pour que leur famille soit en sécurité. Et ensuite, ils vont les combattre. Connaissez quand même ce texte d'1 Timothée 5,8, hein ? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Bon, on pourrait philosopher ce matin sur ce texte, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, en tout cas, je vous le lis. Vous avez compris quoi. On en fait ce que l'on veut, voilà. Ce sera mieux comme ça, dans le sens-là. Mais il est comme ça. Il est comme ça, de prendre soin de nos familles, au sens propre comme au sens figuré, soyons des pères, soyons des mères pour protéger les plus faibles, pour accompagner ceux qui ont besoin, pour secourir ceux qui sont perdus, ceux qui sont accablés, ceux qui sont à terre. Là aussi, le témoin est un bon père, une bonne mère de famille spirituelle, au sens propre comme au sens figuré. Hein, Philippiens 1,8, j'aime bien Paul. On a souvent dit, c'est un personnage qui est rude, qui est dur, etc. Ici, il se découvre un petit peu. Et dans Philippiens 1,8, il dit ceci, Dieu m'est témoin. Tiens, le même rapport. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est extraordinaire quand même, hein ? D'habitude, la tendresse est associée à la femme, à l'épouse, à la mère. Et ici, Paul dit, livre son cœur, je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Le témoin, c'est un bon père de famille, c'est une bonne mère de famille qui va garder, qui va protéger. Bien sûr, sa famille prend soin, mais des plus faibles, des plus malheureux, de ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Les protéger, les mettre en sécurité. Et on sait très bien que pour nous, mettre quelqu'un en sécurité, c'est le remettre dans la présence de Jésus. C'est le remettre dans la présence de Dieu, afin que lui aussi dans sa vie soit un témoin de ce que c'est l'Éternel qui est Dieu. De ce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et puis en parallèle, ben, le témoin c'est aussi un combattant. C'est un conquérant qui est engagé dans l'armée de l'Éternel des armées. Ainsi, ces deux tribus ennemies, elles vont pas. Il y a même un détail, ils se retrouvent au début, à la tête de l'armée. C'est extraordinaire ça, hein. Pas à la queue, en traînant comme ça, mais ils sont à la tête. Et ce matin, on l'a rappelé encore dans ces chants, on est tous engagés dans le même combat spirituel. Il est personnel, il est collectif, hein, il y a des besoins personnels pour ma vie, pour la vôtre ce matin, mais il y a aussi des besoins qu'on partage, qui sont ensemble, etc. On va pas relire Éphésiens 6, 10, 19, hein, vous pourrez relire d'autres textes, mais qui nous rappellent que nous sommes des combattants, on est des soldats, arme nos cœurs. Arme nos bras ce matin. On ne veut pas baisser la tête. Mais là aussi, bien, ensemble, continuer donc le combat contre l'adversaire de nos âmes, contre le péché, contre l'esprit du monde, et puis contre notre propre chair quand même. Hein. Elle est là, notre propre chair. Hein. On la porte avec nous, et puis elle se manifeste. C'est un combat de tous les jours. Mais que Dieu soit béni. On ne veut rien lâcher ce matin. Tous ces combats. Paul dira dans 2 Timothée 4, 7, il dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'ai gardé la foi. C'est donc après avoir installé leur famille en sécurité, je le rappelle, c'est important, puis conquis le pays de Canaan aux côtés de leurs frères et sœurs, de leurs frères d'armes, qu'une fois revenus dans leur territoire, ils vont ériger cet autel. C'est après tout cela qu'ils vont ériger pour que toutes les tribus sachent que l'Éternel, eh bien c'était l'Éternel qui était leur Dieu, et ils en étaient le témoin. Alors on termine par cette dernière question, mais pourquoi vont-ils ériger cet autel ? Alors on va d'abord faire une petite remarque, qui est très intéressante aussi pour nous, c'est que la raison n'a pas été tout à fait comprise par les autres tribus d'Israël, hein. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, et on va en parler, c'est dans Josué 22, on peut relire le verset 12 à 20, la réaction des autres tribus. On aurait pu dire, tiens, en voyant ça, ils vont se réjouir, ils vont danser de joie, ils vont serrer leurs frères dans les bras, etc., ça va être formidable. Sauf que Josué 22, verset 12, nous dit ceci: à cette nouvelle, toute l'assemblée des Israélites se réunit à Silo pour monter les attaquer. Les Israélites envoyèrent une délégation rubénite aux Gadites, à la demi-tribu de Manassé, dans le pays des Galades. Il s'agissait de Phiné, le fils du prêtre Éléazar, de 10 princes, donc c'est vraiment une délégation qui va là. Un par famille pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient des chefs de famille, parmi des milliers d'Israël. Ils allèrent trouver les Rubénites, les Galites, la demi-tribu de Manassé dans le pays de Galaad et s'adressèrent à eux. Voici ce que dit toute l'assemblée de l'Éternel. Donc ils parlent au nom de tout le monde. Hein. Et voilà ce qu'elle déclare. Attention, c'est parti. Que signifie cet acte d'infidélité que vous avez commis envers le Dieu d'Israël ? Vous vous détournez maintenant de l'Éternel. En vous construisant un autel, vous vous révoltez aujourd'hui contre lui. Considérons-nous comme sans importance le crime de Péor. Il y avait eu des problèmes d'immoralité sexuelle. Nous n'en sommes pas encore purifiés malgré le fléau qu'il a attiré sur l'Assemblée d'Éternel. Et vous, vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre nous, demain il s'irritera contre toute l'Assemblée d'Israël. Ça va retomber sur nous, vos histoires. Si vous considérez comme impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel. Là où il a sa résidence, installez-vous au milieu de nous, mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Ne vous séparez pas de nous en vous construisant un autel en plus de celui de l'Éternel, notre Dieu. Lorsqu'Akan, fils de Zérak, a commis un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction, la colère de l'Éternel ne s'est-elle pas enflammée contre toute l'assemblée d'Israël? Akan n'a pas été le seul à mourir à cause de son crime. Voilà. Comment eh bien, les autres tribus d'Israël ont interprété cet autel qui était érigé de cette manière. Ils sont accusés d'infidélité, ils sont accusés de révolte contre Dieu, etc., etc. Alors, le témoin de Jésus-Christ, eh bien, c'est celui aussi qui va être accusé à tort, c'est celui qui va être calomnié, c'est celui qui va être contesté, c'est celui qui va être éprouvé, c'est celui qui va être persécuté également. N'oublions jamais que le témoin dans le Nouveau Testament, c'est le mot martyr, martyr. Mais en tout cas, c'est une réalité. 2 Timothée 3, 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et là, juste une parenthèse. Alors qu'on soit persécuté, contesté dans notre milieu de travail, dans là où on est, dans nos quartiers, etc., ça passe encore. Mais là, quand même le plus terrible, c'est parmi les autres tribus d'Israël. C'est quand on est contesté dans notre propre famille, on va dire spirituelle ou famille parfois naturelle. Là, les plus proches de nous qui ne nous comprennent pas, qui ne voient pas du tout quelle est la motivation de notre cœur, qui est pur, qui est sincère et qui est mal interprété. Et ça nous arrive à chacun d'entre nous. On peut tous être ainsi contestés comme ces deux tribus ennemies d'Israël. Juste une parenthèse pour nous. Attention à nos préjugés, à nos fausses interprétations, à nos affirmations à l'emporte-pièce, à nos jugements hâtifs. Moi le premier, parfois, vous savez, on voit une personne, paf, ça y est, on a l'image dedans, tac, 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 elle est cataloguée, elle est rangée dans les tiroirs, et puis on se dit, ben voilà, elle est comme ça. Alors que non, pas nécessairement, non. Et puis on ne connaît pas toute sa vie, on ne connaît pas ce qu'elle vit sur le moment, etc., etc. Alors, ça n'est pas arrivé qu'aux tribus d'Israël. Vous rappelez un petit peu de cette histoire avec Jésus et ses disciples. À un moment donné, eh bien, Jésus parle à Jean. Et puis, il y a quelque chose dans Jean 21-23 qui est dit ceci. « Le bruit courut parmi les frères que Jean ne mourrait pas. » C'est extraordinaire quand même. Et alors, cependant, attention, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Voilà. Jésus avait eu une conversation avec Pierre, et concernant Jean, bien, il avait dit, écoute, si tu veux, si moi je peux, si je veux qu'il ne meure pas, ben, il n'y a pas de souci, je peux le faire. C'est ce que Jésus avait dit à Pierre, mais Pierre avait compris, lui, ah ben alors Jean, il ne va jamais mourir. L'interprétation. Ça va vite des fois. Alors que ce soit dans nos paroles, que ce soit dans la parole de Dieu, etc., on a tous des filtres. On est nés comme ça, avec nos filtres à nous, avec nos œillères, avec nos lunettes épaississantes, etc. Mais que Dieu nous aide parce que le témoin est exempt, en tout cas ne veut pas vivre dans ses préjugés, etc., etc. En tout cas, bien au contraire, ce matin, eh bien, rappelons-nous que ces tribus étaient animées d'un cœur sincère, légitime. Et je termine, ils avaient une préoccupation. Ils le disent. Et on va relire, parce que finalement, pour nous, c'est important, je crois, cette dernière déclaration. Pourquoi cet autel a-t-il été construit? Pourquoi? Eh bien, versets 21 à 29, voilà ce qu'on va entendre. Les Rubénites, les Gadites, la demi-tribu de Manassé firent cette réponse au chef des milliers d'Israël. Le Dieu des dieux, c'est l'Éternel. Oui, c'est le Dieu des dieux, l'Éternel qui le sait et Israël le saura bien aussi. Si c'est par révolte et par infidélité envers l'Éternel que nous avons agi, ne vient pas notre aide aujourd'hui. Si nous nous sommes construits un autel pour nous détourner de l'Éternel, c'est pour y présenter des holocaustes, des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices de communion, que l'Éternel lui-même nous en demande compte. Non, non. C'est plutôt par inquiétude que nous avons fait cela. Nous avons pensé que vos descendants diraient un jour au nôtre, qu'avez-vous à faire avec l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a établi le Jourdain comme une frontière entre nous et vous, descendants de Ruben et de Gad, vous n'avez aucun droit de servir l'Éternel. À cause de vos descendants, les nôtres cesseraient alors de craindre l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes dit, construisons-nous un autel, non pour y offrir des holocaustes, des sacrifices, mais comme un témoin. Il témoignera entre nous et vous, entre vos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant lui par nos holocaustes, nos sacrifices d'expiation. Ainsi, vos descendants ne pourront pas dire un jour aux nôtres, vous n'avez aucun droit de servir l'Éternel. Nous nous sommes dit, si dans l'avenir, ils nous tiennent ce langage, à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la réplique de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos ancêtres, non pour les holocaustes et pour les sacrifices, mais comme témoin entre nous et vous. Nous ne voulons certes pas nous révolter contre l'Éternel, nous détourner aujourd'hui de lui en construisant un autel destiné à des holocaustes, des offrandes, des sacrifices, en plus que celui de l'Éternel, notre Dieu, et qui est devant sa demeure. Amen. Alors ici, on a la raison, on a la motivation, on a le cœur de ces tribus. Finalement, eh bien, le témoin, c'est celui qui va transmettre, qui va se préoccuper de transmettre dans la jeune génération, eh bien, ce qu'il a retenu de la part de Dieu, qui va communiquer. Ici, le souci réel de ces deux tribus ennemies, c'était d'assurer aux jeunes générations le droit de continuer à servir l'Éternel. Quelle préoccupation. Ils voulaient absolument que les générations futures, eh bien, puissent elles aussi continuer à servir l'Éternel. Que cet héritage ne soit pas dilapidé, que cet héritage, eh bien, ne soit pas arrêté, mais que cet héritage, au contraire, soit transmis et enrichi. Et le témoin, ce matin que nous sommes, eh bien, s'inquiète, dans le bon sens du terme, de ce que les générations futures, si Jésus tarde à venir nous chercher, eh bien, connaissent également le témoignage de Jésus-Christ, connaissent également cette réalité, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est celui qui sauve, qui guérit, que nous puissions communiquer. Et c'est vrai que plus on avance dans l'âge, plus parfois on a du mal à comprendre la jeune génération. On l'a vécu avec nos parents, etc. Et c'est pas toujours évident. Le fonctionnement de la génération, on n'est même plus la génération Z, là. Je crois que c'est la génération Alpha, il me semble. Et bientôt, ce sera la génération Bêta. J'aimerais pas être cette génération. On va dire, oh, t'es un gros bêta, etc. Bon. Mais si ça continue, ce sera la génération bêta. Mais c'est vrai, hein, entre les générations, les papy-boomers que nous sommes ou autres, et puis ces jeunes générations, bon, des fois, on s'arrache les cheveux qui nous restent, hein. Bien. Mais il y a quand même un souci, un bon souci à avoir. Comment transmettre à cette jeune génération, eh bien, qu'elles aussi ont accès à l'Éternel, ont accès à la grâce, ont accès au salut, ont accès au pardon, ont accès à ce bonheur que Jésus promet pour elles. La jeune génération a le droit de continuer à servir l'Éternel. Amen. Alors, c'est sûr, parfois c'est dérangeant, hein. Parfois c'est crispant. Parfois on ne comprend pas, on se dit, oh là là. Mais, je le rappelle, soyons à ce moment-là des pères et des mères. On a le droit de ne pas toujours être d'accord. Attention, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais Paul dira ceci à Timothée. Il y a un passage de témoin à opérer. De Timothée 2:2. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Et c'est un petit peu le but de, justement, la course de témoins. Je ne sais pas si vous êtes un athlète accompli, si vous avez fait de la course de relais quand vous étiez jeune, etc. Mais qui gagne une course de relais? Eh bien, ce n'est pas l'équipe la plus rapide. Non, ce n'est pas l'équipe la plus rapide. C'est l'équipe la plus rapide, mais qui arrive avec le témoin. Parce que si dans le moment du passage du témoin, le témoin tombe à terre, l'équipe a beau être la plus rapide, elle est disqualifiée. C'est l'équipe, c'est vrai, la plus rapide, mais avec le témoin. Et le témoin que nous sommes ce matin, eh bien, doit avoir à cœur aussi cette jeune génération. Oui, des fois, on ne sait pas trop comment faire, etc., mais qui a le droit, je vais dire ça comme ça, de servir également l'Éternel, qui a le droit de connaître Jésus-Christ, qui a le droit là aussi de vivre des expériences, qui a le droit d'avoir un cœur lavé, purifié par le sang de Jésus. Alors on conclut. Josué 22, 30, 32, 33, ce sont quelques versets. Lorsque le prêtre Finé, le prince de l'assemblée des chefs des milices d'Israël qui l'accompagnaient, eurent entendu les paroles que prononçaient les Rubénites, les Gadites et les Manassites, ils furent satisfaits. Ils furent satisfaits. Verset 32. Finé, fils du prêtre Éléazar, et les princes quittèrent les Rubénites et les Gadites, ils revinrent du pays de Galade, dans le pays de Canaan, vers les Israélites, et leur firent un rapport. Les Israélites furent satisfaits. Toute la délégation est princière là est satisfaite. Qu'est-ce qu'elle va communiquer au peuple? Eh bien, de la satisfaction. Tout le monde va être satisfait finalement. Et les Israélites sont satisfaits. Et cet hôtel, Ed, il s'appelle comme ça, eh bien, devient une source de bénédiction pour toutes les tribus d'Israël. On conclut. Le proverbe 14, 25 dit ceci. Le témoin véridique délivre les âmes. Plusieurs versions. Le témoin qui dit la vérité peut sauver des vies. Un témoin fidèle délivre les âmes parce qu'il est témoin que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et ce matin, nous sommes témoins de ce que c'est l'Éternel qui est Dieu, de ce qu'il fait dans nos vies, de ce qu'il fait à travers nos vies. Et nous voulons être alors ces témoins. On en a développé quelques aspects ce matin. Mais je pense que le plus important, en tout cas, pour ce partage, c'est de transmettre à cette jeune génération qu'elle a, entre guillemets, le droit aussi de connaître l'Éternel. Le diable ne veut pas que cette jeune génération connaisse. Le monde ne veut pas. Notre chair n'en veut pas. Le péché ne veut pas. Mais nous voulons déclarer au nom de Jésus-Christ ce matin que cette jeune génération a le droit de connaître le salut en Jésus-Christ. Amen. Et ça passera par chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta bonté et ta grâce. Merci, merci pour la vie de Jésus-Christ qui a changé notre cœur, qui a changé notre mentalité, qui a changé notre état d'esprit. Seigneur, ce matin, nous voulons tout simplement prier pour cette jeune génération. Il y a parmi nous des pères, des grands-pères, des arrière-grands-pères, il y a des mères, des arrière-grands-mères, des grands-mères également. Et nous prions, Seigneur, ensemble, avec eux, pour cette jeune génération. Nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos petits-enfants, nous prions pour nos arrière-petits-enfants. Ils ont le droit également de connaître Jésus-Christ. Ils ont le droit de connaître, Seigneur, la grâce de Dieu. Ils ont le droit de connaître le salut, la délivrance. Ils ont le droit de savoir qu'il y a dans le ciel et quelqu'un qui s'appelle l'Éternel, qui a envoyé Jésus-Christ et qui a accompli cette œuvre merveilleuse à la croix du calvaire. Au nom de Jésus-Christ, fais de nous, Seigneur, ces tribus de témoins pour que cette jeune génération te connaisse et qu'ainsi elle ne se perde pas, Seigneur. Oui, nous prions, Père, pour que l'Église soit ce témoin que l'Éternel est notre Dieu. Merci Seigneur. Nous prions peut-être pour celles et ceux ce matin qui n'ont pas encore fait une rencontre personnelle avec toi. Eh bien, nous déclarons que ce matin, ils ont le droit, ils ont accès au trône de la grâce, que la porte de la grâce n'est pas fermée et que désormais, Seigneur, leur cœur peut être aussi transformé, touché, que leur vie peut être orientée d'une autre manière, que leur mentalité, Seigneur, peut changer pour découvrir qui est Jésus, qui est Dieu, qui est l'Éternel, qui a fait de nous de nouvelles créations. Ah, nous nous réjouissons, Seigneur, parce que pour nous, l'avenir n'est pas sombre, pour nous, l'avenir n'est pas bouché, mais il va déboucher sur l'éternité, il va déboucher sur ton retour, il va déboucher sur le royaume de Dieu. Et nous nous en réjouissons ce matin dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, nous déclarons ce matin que cette jeune génération a le droit également de servir l'Éternel et de découvrir que l'Éternel veut être également leur Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. 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 C'est ce que nous déclarons également ce matin au travers de la Sainte Cène, ce que Jésus a accompli. On peut se lever, nous qui sommes baptisés par immersion,